Chapitre 5. Ne vous semble-t-il pas que, dans cette traversée de Beaucaire à Lyon, qui n'a pas duré bien certainement plus de 5 jours, les journées ont la longueur d'un voyage au long cours? Cela tient moins, j'imagine, à la monotonie du décor qu'à l'identité des deux principaux personnages, toujours les mêmes, ne se modifiant en rien au contact des hommes ni des événements. Le paysage, lui, changeait presque à chaque tour de roue. Je crois vous avoir dit comment le Rhône, à mesure que nous montions, passait du bleu foncé au bleu clair, puis à des tons de platine et d'acier qui faisaient du Rhône de Beaucaire un Rhône tout différent du Rhône de Lyon. Même variété sur le rivage. Aux masses du midi, brûlées et roux, succédaient les riantes fermes bourguignonnes, aux pâles verdures de Provence, aux gros pâturages de l'Ardèche et de l'Isère, le vert humide et gras du Lyonnais. Ce qui ne changeait pas, c'était nous, c'était ces deux petits hommes vantards et incorrigibles auxquels ne servait aucune leçon et que vous auriez vus, après leur ridicule aventure avec Madame Brouillard et son amie, réinstallés sur l'avant du Bonnardel et reprenant pour les bons troupiers, retour de Crimée, la suite de leurs abracadabrantes aventures en Orient, aventures de terre et de mer, guerroyantes et ballantes, avec accompagnement de gestes, de gambades, imitations de cris d'animaux, de bruits et d'instruments variés. Pour nous mettre à l'aise, les deux artilleurs, témoins de mon accident, avaient quitté le bord à une des dernières escales et, sûrement sans souffler mot de ce qui m'était arrivé, car je ne surprenais pas l'ombre d'une raillerie dans les regards ingénus et bons qui m'entouraient. Que pouvais-je bien leur raconter à tous ces braves gens? De quelle prouesse et quel prodige d'adresse et de courage osais-je me vanter devant ces hommes qui, tous, avaient vu la mort en face et quelques-uns sans baisser les yeux? Il me serait difficile de le dire. J'ai écrit tant de romans depuis ceux que j'improvisais dans ce voyage. Pourtant, certains détails me reviennent, un coup de lumière, arrivé je ne sais d'où, frappe et fait revivre, au lointain de mes souvenirs, un nom, un visage que je croyais oublié, perdu. Ainsi, ce nom de Josse, qui vous rappelle à vous l'orfèvre de Molière, à moi me remémore la pauvre figure terreuse, douloureuse, l'haleine brûlée d'alcool d'un de mes troupiers, un chasseur de Vincennes, court et trapu, amputé d'une main. En même temps, ce nom évoque pour moi une fin de jour brumeuse. Le Bonnardel vient d'accoster et ce grand cri s'élève par tout le bord, redit et crié 100 fois. « Josse est tombé à l'eau ! Josse est tombé à l'eau !» Le pauvre diable était ivre, comme toujours. Le pied lui avait manqué, sans doute, en franchissant la passerelle. Et je me vois, courant sur le pont, avec le geste d'enlever ma jaquette. J'entends les soldats murmurer autour de moi. « L'officier ! Laissez passer l'officier !» Car je leur avais raconté mes prouesses comme un nageur, le Bosphore traversé en faisant la planche, et combien de sauvetages accomplis. Qu'est-ce que c'était pour moi de repêcher le brave Josse ? Je vous le demande ? Peu cher, je me le demandais aussi, en regardant l'eau du fleuve rapide et profonde, tandis que je songeais avec épouvante. « Comment vas-tu faire, malheureux ? Tu ne sais pas nager. Il faut y aller, pourtant, ou tu es perdu d'honneur devant tous ces hommes. En avant, zou !» Et je crois bien que, l'orgueil aidant, tout ce monde qui me regardait, l'espoir qu'il se trouverait quelqu'un qui me tirerait d'affaire, oui, je crois que j'aurais fait la folie de sauter dans le Rhône, quand soudain on cria de l'arrière « Il l'a ! Il le tient ! Sauvé ! Bravo ! Sauvé !» Et j'apercevais au loin, sur la berge, Josse qu'on rapportait à bord, grelottant et dégoulinant. Puis le suivant, entouré de monde, son sauveur qui riait, ses brouets très simples au milieu des acclamations. Ce sauveur, ce héros, c'était, devinez qui ? L'homme de Saint-Quentin, mon Anglais. Comme à chaque correction, à chaque claque formidable dont le sort se plaisait à corriger ma vanité, cette fois encore je dus rester penaud après cet épisode et tenir ma langue tranquille quelque temps. Mais pas très longtemps, n'en doutez pas. Croyez qu'il y en eut encore des aventures mensongères racontées et gesticulées par l'élève de Varnin sur le gaillard d'avant et que les deux petits Montpellier s'écrièrent souvent avec transport « Oh, de ces monstres !» Seulement, à partir du sauvetage de Josse, toute cette fin de traversée sans brouille, sans brume, comme si, en approchant de Lyon, la ville aux deux rivières, toujours brumeuse et pluvieuse, un grand rideau de nuées eut enveloppé le Bonnardel et tout ce qui se passait à son bord. Je me souviens cependant qu'en arrivant vers la Mulatière, on désigne ainsi le point précis où la Saône se jette dans le Rhône, un peu au-dessous de Lyon, et comme je venais de me livrer à une de mes improvisations les plus étourdissantes, prenant Léonce à témoin de la véracité de mon histoire, tout à coup l'Anglais que je n'avais pas vu et qui m'écoutait depuis un moment, me dit avec un bon sourire « C'est vrai, jeune homme, vous sortez de l'école de Varna ?» Je me retournai les yeux flambants, la crête redressée comme un jeune coq. « De l'école de Varna, oui, monsieur, parfaitement. » « Et votre cousin aussi, je suppose ?»« Oui, monsieur, mon cousin aussi. » »« Alors pourquoi porte-t-il écrit sur tous les boutons de son gilet « Lycée de Nîmes » ?» Et son doigt, appuyé sur la poitrine de Léonce, complètement ahuri, dénonçait à tous les marques du mensonge, pendant que le gaillard d'avant tout entier retentissait d'un immense éclat de rire. Quant à moi, il n'y a pas de mots pour exprimer mon indignation, ma rage folle contre l'Anglais, contre Léonce, contre mes troupiers. À ce moment, par bonheur, quelqu'un dit « Voilà Lyon !» et personne ne s'occupa plus que du débarquement. Ce fut le dernier épisode de mon voyage. Que ceux qui l'ont lu ne me demandent pas ce que devinrent Madame Brouillard et son amie, ni les petits Montpelliérains si joufflus, ni toutes les ombres chinoises que je viens de faire évoluer comme dans un rêve rétrospectif, bien fugitif et bien lointain. Je le répète, ceci n'est pas un roman. Quand une transition ou un dénouement manque à mon récit, je n'ai pas le droit de l'inventer. C'est pourquoi, ne me rappelant plus rien de mon arrivée que marque l'algarade de l'Anglais, je la laisse s'évanouir dans les brouillards du Rhône et de la Saône, unis et confondus. Qu'on sache seulement qu'avant de quitter le bateau, je ne sais quel hasard me révéla le nom de mon ennemi, l'Anglais de Saint-Quentin. Il s'appelait, et au-dessous de ce nom, trop connu pour que je l'écrive ici, je l'use avec épouvante, capitaine de frégate, maître de conférence à l'école polytechnique. Capitaine de frégate, et c'est devant lui que l'élève de Varna racontait et mimait toutes ses aventures de mer.